Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bonjour, bonsoir. Pourquoi ? Parce que c'est un podcast aujourd'hui, donc ça peut s'écouter à n'importe quelle heure de la journée, dans les transports, le soir, durant votre session de sportif du soir. Oui, on reprend les podcasts aujourd'hui, enfin on reprend. On a commencé un petit peu il y a quelques semaines déjà, c'est une de nos volontés. On se chauffe pour vous proposer encore un peu plus, toujours plus, partir encore de la semaine prochaine. Là, on a un peu arrêté le live, comme vous avez compris, pour cause de trêve estivale. Mais on continue de vous proposer du contenu en ce mois de juillet et ce mois de juin, juillet et du mois d'août, sûrement. Aujourd'hui, idée un peu innovante, un peu différente de d'habitude, mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu nouveau avec mes acolytes du jour, une sorte de draft de sujets qui nous ont intéressés, surtout sauf la Liga Bwin. Vous avez remarqué, on parle beaucoup de championnat, c'est quelque chose qui nous passionne, ces joueurs, ces entraîneurs, ces débats enflammés. Mais aujourd'hui, on voulait mettre en place un podcast qui puisse parler un peu de tout ce qui s'est passé la saison dernière, de la D2 jusqu'au U15 potentiellement, jusqu'au football féminin s'il faut. On va parler de tous ces sujets. Enfin, on va essayer de voir si on va parler de tous ces sujets. Vous allez voir, il y aura quelques petites surprises potentiellement. Mais avant de continuer cette longue introduction, je vais présenter mes acolytes du soir. Alexandre, comment vas-tu ?
Ça va tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, heureux de reprendre les podcasts. On a dit comme qu'on allait reprendre, donc on va essayer d'en faire le plus souvent possible durant cette trêve qui a lieu en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les gars, et très content de faire ce podcast un peu innovant où on va essayer de traiter un peu tous les sujets rapidement qu'on n'a pas vraiment le temps de traiter durant l'année.
Merci Alex. Philippe, comment vas-tu ?
Bonjour ou bonsoir à tous, très heureux de participer à ce nouveau type de format, format un peu particulier qui sort un peu de l'ordinaire, mais c'est pas plus mal, on essaye d'innover un petit peu et de se réinventer et c'est super cool du coup de faire ça avec vous là.
Oui, alors c'est pas un format... c'est un format innovant pour nous, c'est un format qui existe déjà dans d'autres podcasts et dans d'autres émissions qu'on a repris, mais sur les sujets donc qui nous intéressent, le football portugais, une draft, c'est très simple en fait, on va faire un petit tirage au sort et en fonction de celui qui tire en premier jusqu'au troisième, va commencer par délivrer tout simplement un sujet qu'il voulait évoquer rapidement ou plus ou moins rapidement sur la saison qui l'a intéressé, qui l'a peut-être choqué, qui l'a peut-être amusé sur cette saison 2022-2023. On va aller en fonction du tirage au sort, le premier va donner son sujet, on débattra peut-être un petit peu si ça mérite débat. Je pense que quasiment tous les sujets mériteront débat, on verra. Jusqu'au troisième, puis le troisième enchaînera sur un quatrième sujet, on fera un aller-retour. Et on va faire ça pour trois sujets, on a prévu plus de sujets, si on tombe sur des sujets un peu en commun. Sinon, à la fin, il y a encore des sujets qui resteront un peu dans la besace, on les évoquera aussi rapidement, on dira, voilà. On vous fera un peu état de tout ce qu'on veut discuter aujourd'hui, en espérant ne pas faire trop long, c'est pas le leitmotiv de Golasso, vous le savez, mais on va essayer de s'améliorer aussi à ce niveau-là. Donc je vais faire le tirage au sort, je l'ai pas fait avant, je vais le faire tout de suite, mes acolytes ne peuvent pas le voir, donc je peux totalement mentir là-dessus, je vois pas pourquoi je mentirais là-dessus, mais on va le faire ça tout de suite. Plouf plouf, bon ok, c'est moi qui commence, ensuite ce sera Alex et Philippe. J'espère que c'est bon pour vous les gars. Je n'ai pas triché sur le tirage au sort. Je vois pas pourquoi je tricherais sur le tirage au sort.
Ouais, c'est ça. Ça, on reconnaît bien la mafia portugaise.
Oui, bien sûr. Ça, c'est technique de faire le mot. Ok, ça fait 4 minutes qu'on a commencé. Alex m'insulte. Vous l'aurez noté. Premier sujet que je voulais évoquer avec vous, les gars, c'est la montée, c'est une consécutive à une double montée, c'est la montée d'un club qui est pas loin de Braga, c'est le Lang Vilaverdense, donc le club de Vilaverde, qui est un club qui est dans la région de Braga, qui est monté en deuxième division cette année, après avoir fait une saison remarquable en troisième division, après donc être monté la saison dernière de la D4 jusqu'en D3, pour une saison de remontée. Donc c'est un club, donc il y a pas mal d'articles hein, qui sont sortis, hein, si vous cherchez bien, même sur des contenus en français, hein, sur l'actionnaire canadien qui est Lang, et qui a investi dans le football masculin et féminin aussi, donc au niveau du club de Villeverde, club féminin qui est encore en première division, il me semble, je crois que oui, et un club masculin qui est donc désormais en deuxième division, entraîné par un entraîneur qui n'est malheureusement déjà plus là, mais qui a fait un travail immense, Ricardo Silva, de monter, donc de faire double montée. Donc on a souvent parlé des Luis Frères, des Vitor Oliveira, des entraîneurs impactants qui ont fait plusieurs montées. Là, c'est une montée Alvaro Pacheco, bien sûr, qui ont réussi à faire ces montées successives. Ricardo Silva a réussi avec le Lang Villeurbanne, c'est avec un club et une équipe voilà que j'ai vu un peu parce qu'on les a affrontés 4 fois avec l'équipe B. On les a littéralement battus jamais et à chaque fois on s'est quand même largement fait surpasser par cette équipe extrêmement compétitive pour son niveau, avec une sensation d'une équipe très très complète à tous les moments du match, à la fois quand il fallait presser, à la fois quand il fallait avoir le ballon, à la fois quand il fallait transiter. C'est une équipe qui vraiment m'a impressionné par la qualité de certains joueurs, comme un 10 assez un pas vraiment à l'ancienne, mais toujours sympathique de voir ce genre de numéro, enfin de relayeur, meneur, capitaine de son équipe, capable de créer tout en étant dangereux de plus loin, par la frappe, André Sorès avec d'autres joueurs, Brian Sipanga, Edmilson, l'attaquant qui marque 15 buts et qui est un attaquant qui en a imposé sur la défense. Et pour ce niveau-là, la Liga 3, avoir un attaquant de ce niveau-là, ça t'aide fortement. Et donc voilà, donc ils sont battus en play-off de Liga 3, l'équipe de Braga encore, et ensuite en play-off pour monter définitivement un certain club de la Bessade, si on peut appeler ça un club, et qui donc a permis d'atteindre, donc faire cette double montée, d'être le premier club depuis qu'il y a les play-offs entre la Liga 3 et la D2 de monter après les play-offs. C'était la deuxième année, le Covid a c'était maintenu l'année dernière, cette année la Bessade est descendue. Tant mieux, et le Lang Villeverdiens est monté. Donc c'est un club qui, bon, ça a la particularité d'avoir un actionnaire dans le nom du club, ce qui est pas commun au Portugal. Je crois que ça devait être le seul cas que j'ai en tête, je crois. Mais voilà, qui a des ambitions et qui est désormais professionnel, et qui a donc perdu son entraîneur, Ricardo Silva, qui est donc monté, entre guillemets, a été recruté par Passos de Ferreira, qui est descendu de la Ligue, enfin de la première division, en deuxième division, donc qui a investi sur un jeune entraîneur 41 ans pour refaire pour entamer sa remontée. Donc potentiellement, Ricardo Silva aura quand même les armes avec un club qui va chercher à remonter directement, le Passos, en première division, de faire une troisième année consécutive en montant, et il a déjà recruté Brian Sipanga, qui jouait avec lui au Lang Villeverdiens, donc un ailier congolais qui a pas marqué beaucoup de buts, hein, il me semble, mais en termes de centre et de passe dans le dernier tiers à délivrer certaines bonnes choses en termes de passes décisives. Donc bravo à lui, bravo à ce club qui était impressionnant. Et c'est pas le seul club impressionnant, les Gatrich, on avait déjà évoqué avec les garçons lors de nos émissions directes sur l'Eria qui a été champion, donc qui a fait une incroyable saison, Belenenses aussi. Donc voilà, mais ce projet-là et cet entraîneur-là, je trouve, méritait d'être mentionné dans notre podcast, les amis. Donc si vous avez quelque chose à rajouter, c'est maintenant.
Non, perso, rien d'autre à rajouter. T'as été complet comme d'habitude, donc sujet intéressant que j'espère que nos auditeurs vont pouvoir en apprendre plus. Mais de mon côté, non, rien d'autre à rajouter sur ce que tu as dit.
Ouais, moi non plus. Hein. Ça faisait partie des trucs que j'avais noté. Maintenant, t'as été tellement complet que j'ai rien à rajouter.
Tu l'as vraiment noté, Philippe. C'était vraiment tes choix.
Non, ça faisait partie d'une branche d'un de mes choix.
D'accord.
En gros, et du coup, mais j'avais pas fait un focus que sur eux. Mais ouais, j'avais noté. Rien de plus. T'as été très complet là-dessus, donc.
Ok, les gars. Pour moi aussi. C'est Alex. Alex, ton premier choix.
Alors moi, mon premier choix, du coup, ça va relier deux sujets en fait. Je vais parler, vous avez compris, de la formation au Portugal, et notamment du tournoi qui vient de se terminer, le tournoi Lopes da Silva, qui est un tournoi hyper hyper important pour le Portugal, car en fait, pour résumer, ça regroupe toutes les régions du Portugal, donc Lisbonne, Porto, Braga, Aveiro, Algarve, etc., etc., et Madère, enfin voilà, toutes les régions en quelque sorte du Portugal, et c'est donc ils font une équipe, et du coup il y a un tournoi qui se passe sur une semaine où tous les meilleurs U14 du pays jouent l'un contre l'autre. Donc voilà, par exemple, je sais pas, c'est comme si en France demain, pendant une semaine, tu as le Paris-Île-de-France, donc l'Île-de-France qui jouerait contre la Côte d'Azur ou je ne sais quoi pendant une semaine. Donc voilà, c'est en quelque sorte ça. Et ce tournoi permet en fait ensuite de faire une sorte de sélection pour la sélection U15 qui aura lieu donc en septembre. Donc c'est un tri qui est déjà fait en quelque sorte pour les sélectionneurs, pour le futur sélectionneur U15 qui pourra donc qui assister à tous les matchs. La fédération portugaise a assisté à tous les matchs et donc la sélection U15 se fera sur ce qu'ils ont vu lors de ce tournoi Lopes da Silva. Et donc pour la première fois de son histoire, c'est Madère qui remporte ce tournoi. Et pour la première fois de son histoire, du tournoi quand même qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, même plus je crois, en quelque sorte, c'était la finale entre donc l'AF Madère, la région de Madère, contre Setúbal. Et donc c'est-à-dire qu'il n'y avait ni Lisbonne, ni Porto, ni Braga en finale, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Donc c'est une finale historique. Et en quelque sorte, ça veut dire que ce qui est bien, c'est que ça montre que le Portugal regorge de talent, ça on le savait tous, mais que le Portugal, le talent est partout au Portugal. Il n'est pas centralisé à Lisbonne, à Porto ou à Braga. Ce n'est pas que les trois régions là où il y a du talent. Il y a du talent partout. Et pour un petit pays comme ça, c'est vraiment flatteur et c'est prometteur. Et du coup, ça résume un peu à ce que je voulais mettre sur mon sujet, c'est le championnat U19, où on a vu Famalicão ont remporté ce titre-là de champion. Donc Famalicão ne participera à la Youth League, ce qui est historique aussi. C'est la première fois que Famalicão remporte ce championnat-là, ce qui montre encore une fois que il n'y a pas que les quatre gros clubs au Portugal qui formaient bien. Famalicão commence à progresser, Estoril, Casapia qui commence à prendre de plus en plus de talents de la région de Lisbonne, et j'en oublie sûrement Guimarães qui malgré une situation difficile financière, commence aussi à, même si leur équipe est descendue de division. Mais ont quand même des très bons jeunes. Donc voilà, ça montre que le Portugal, que le talent est partout au Portugal. Maintenant, ce que je peux voir aussi, c'est que il y a un manque aussi de talent. Alors non, je dirais pas de talent, de crack, on va dire. C'est-à-dire que de ce que j'ai pu voir lors du tournoi Lopes da Silva et surtout du championnat 19, ça a un manque de crack. Il y a beaucoup de talent, mais il n'y a pas de joueur où tu te dis, ouais, celui-là, ça sera un futur ballon d'or. Et je pense que c'est un autre sujet qu'on pourrait évoquer aussi, c'est que le Covid a fait du mal à ces générations-là, parce que au Portugal, le foot amateur et aussi des jeunes a été arrêté pendant presque 2 ans. Et je trouve que là, on le ressent en fait, on le ressent en termes de talent. Il y a des bons joueurs, des très bons joueurs de ballon, ça je dis pas le contraire, mais il n'y a pas de talent qui te saute aux yeux en fait. Et sur cette génération 2009, alors il n'y avait pas tout le monde, les meilleurs ont déjà participé à l'édition précédente l'année dernière avec les 2018. Donc les Julio Vera, les Stefano, etc. n'ont pas pu participer à cette édition-là parce qu'ils avaient déjà joué l'année dernière. Mais je sais pas, peut-être qu'il y avait des blessés, etc. Mais j'ai pas vu d'énormes talents de cette génération 2009. Donc voilà, c'était un peu mon premier point que je voulais souligner. Et ça regroupe aussi un peu avec le championnat U19. Et ça sera aussi du coup un autre sujet qu'on évoquera plus tard, je pense.
Merci Alex. Est-ce que la victoire des Chevaliers de Famalicão 19 compte comme un sujet chez toi?
Oui, non.
Ok.
Enfin, moi, c'est plus en mode, mon sujet, ce serait en mode, est-ce qu'il faut vraiment continuer avec le championnat 19? Ça, c'est un débat que j'aimerais poser.
C'est un vrai débat. Je
Ouais.
suis assez d'accord avec toi. Bah, après, c'est surtout cette année que j'ai ressenti ça, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que, à part Braga, hein, et c'est pour ça que. Parce que j'ai pas beaucoup de sujets sur Braga, donc si je peux en envoyer un peu vite fait, c'est sur le fait que je suis très déçu finalement du résultat. Je dis pas que c'est plus important ça, mon championnat de formation.
Bien sûr.
Je vais pas commencer à jeter des pierres à voilà, Blessing Lumwen, qui était notre entraîneur cette saison U19 et qui globalement a fait plutôt bien jouer l'équipe. Mais ce que voilà, je dis bien qu'à un moment, quand t'arrives à fin finale et tout, et que tu vois Famalicão gagner, que tu finis cinquième, alors que c'est un avis personnel, mais t'avais la meilleure génération de l'histoire du club jusqu'à ce moment-là, qui était génération 2005 combinée à la 2004. T'avais juste à part João Vasconcelos, qui était en U23, t'avais vraiment la meilleure génération et t'as pas réussi à passer ce gap. Alors t'as pas été ridicule, hein, parce que finalement tu perds aucun match contre le Sporting, tu perds qu'un match face à Porto. Non, tu perds aucun match face à Porto, tu perds qu'un match face à Benfica, tu fais que des matchs nuls, t'arrives pas enfin voilà, à faire ce que Femme Alicant a fait, c'est-à-dire être très fort dans les grands matchs aussi, et être décisif et être efficace. Mais je suis d'accord avec toi que en affrontant les générations de Porto Benfica du Sporting cette année, après est-ce que Porto a vraiment répéter, hein, mais est-ce que vraiment des équipes incroyables, je ne sais pas, mais d'un point de vue en tout cas du Sporting, j'ai l'impression que tous les bons joueurs étaient plus hauts déjà, étaient beaucoup plus hauts, et que même côté du Sporting, t'avais des Alfonso Moreira, des Rodrigo Ribeiro, des João Muniz qui étaient déjà en équipe B, même pas en U23, donc je suis assez d'accord, parce que ça, je pense, tu vois, ça permettrait à un peu, bah, je sais pas, supprimer le championnat 19, c'est quand même un championnat historique, mais tu vois bien que t'as trop de clubs en fait qui tardent un peu à mettre les joueurs en équipe B, et le Sporting l'a pas fait cette saison, mais nous je trouve qu'on l'a fait aussi, qu'on fait pas assez confiance et qu'on devrait mettre beaucoup plus de garçons de 17-18 ans en équipe B pour s'ils sont prêts, surtout pour les confronter au grand bas. Et à Braga, on a l'exemple de Roger cette saison qui a fait une saison complète enfin tranquillement dans son équipe B, hein, dans un championnat senior, et qui a fait une super saison, et qui, voilà, parce que j'ai entendu que certaines personnes se demandaient où était Roger, bah il était en équipe B tranquillement en train de faire une super saison, donc avec des darons en Liga 3, voilà, mais c'est un bon débat, Alex, je suis assez d'accord avec toi.
Ouais, clairement, j'ai l'impression vraiment que ce championnat ne sert plus à rien, en fait, c'est que, bah, tu viens de le dire, pour moi, les meilleurs sont déjà en U23 ou en équipe B, et les plus faibles, sont en U19, mais du coup, ça fait que le championnat, il descend en termes de niveau, et je me dis que vraiment, il devient de moins en moins intéressant, en fait, surtout, souvent, alors je parle même pas des phases initiales, hein, les premières phases où du coup, un peu pour expliquer au portier, il y a des phases, t'as la phase où, la phase initiale, en fait, les clubs de la région, voilà, Braga, Femme Alicant, Guimarães jouent entre eux, et les deux premiers ou les trois premiers, ensuite, se qualifient pour la phase finale, où du coup, t'affrontes, en fait, les trois premiers de la région de Lisbonne, etc., etc. Et donc, voilà, c'est, en fait, à la phase vraiment finale, qui est à partir de janvier, qui devient vraiment intéressante. Mais l'autre phase est vraiment mauvaise, enfin, ne sert à rien, à part les gros matchs, quoi. Et je trouve que même sur la phase de champion, la phase finale, il n'y a pas eu de gros matchs, en fait, c'est ce qui me chagrine un peu, parce que je comprends pas l'intérêt de continuer avec ce championnat si tu mets tes meilleurs en U23 ou en équipe B. Je peux comprendre l'intérêt, c'est-à-dire qu'ils vont progresser beaucoup plus vite en jouant avec des joueurs plus âgés, etc. Mais du coup, je trouve vraiment que le championnat U19 perd en compétitivité. Et du coup, c'était mon deuxième sujet limite. Donc, tu vois, j'ai fait un thème sur deux, enfin, un sujet sur deux en même temps, tu vois.
J'espère que t'as assez de sujets, hein, sinon je vais t'en vouloir.
Ouais.
Phil, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sinon, on embraye partout.
Non, parce que par rapport au championnat U19, j'ai une petite partie sur un de mes sujets, mais forcément qui me concerne un peu plus. Mais de toute façon, ça viendra aussi dans le débat. Mais là, tout de suite, sur le premier sujet, c'est un sujet un petit peu différent que les jeunes, quoi.
Vas-y, Philippe. Mais t'as deux sujets de suite, là. Hein. Donc,
Ah ouais. Moi, en soi, c'est la même division, ça va suivre. Donc, je pense que vous saviez déjà, quand t'as lancé la draft, tu savais déjà quel serait un de mes premiers sujets, et ça me paraît évident. Donc, c'est la saison schizophrénique de l'Académico de Viseu, forcément, parce que c'est le club qui est le plus proche de chez moi, dans les divisions les plus hautes. Voilà, je compte pas Tondère là parce que les maillots jaunes et verts, ça va 2 minutes. Donc voilà, saison schizophrénique. Pourquoi? Parce que c'est pas une équipe qui de base est censée jouer la montée, parce qu'elle est pas faite pour ça, et que la dernière fois qu'ils ont été dans l'élite, c'était en 88-89, donc c'est pas tout de suite à côté. Enfin, ça date un petit peu. Et que cette saison, au final, qui a connu beaucoup de rebondissements, ça a été la deuxième meilleure saison avec 2017-2018. Donc sur les 10 dernières années. Donc comme quoi il y a eu pas mal de remous cette année. Un début de saison qui a été compliqué jusqu'à l'arrivée de Georges Costa. Georges Costa arrive, il perd son premier match contre Austria, qui au final finira par jouer les barrages pour la montée. Et à partir de là, ils vont enchaîner genre 20 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, jusqu'à jouer Porto en Coupe de la Ligue. Et après, ils vont perdre 3 matchs de suite, Porto Coupe de la Ligue, Moreirense en championnat, donc premier leader, et Porto Coupe du Portugal. Donc, une période un peu compliquée. Après, sans que la raison soit expliquée, Georges Koch se fait virer. Alors, ce qu'on a comme excuse, c'est qu'il y a un différend sur la planification pour la saison suivante. Et du coup, il est limogé. Et bah après, ça va dégringoler. Et, ça va laisser la place à Austria pour finir troisième et jouer le barrage face à Maritimo. Il y a quand même 2-3 points à souligner. C'est forcément l'énorme saison d'André Clovis qui était prêté par Stouril et dont l'option d'achat a été levée, qui a marqué quand même 31 buts en 43 matchs, toutes compétitions confondues, qui finit meilleur buteur du championnat avec 28 buts. Donc c'est quand même énorme en Ligue 2. Alors il y a eu pas mal de pénaux, mais il y a eu énormément de buts aussi dans le jeu et de très beaux buts d'ailleurs. Et il y a aussi du coup le fait que Domen Grill, le gardien de l'équipe, a été nommé dans le 11 de l'année. Alors bon, quand on voit le 11 de l'année de la première division, on peut se demander est-ce que il y a beaucoup de légitimité ou pas. Mais bon, ça reste quand même une indication. J'ai trouvé assez solide, sachant que c'était un point qui était un peu compliqué parce que ces dernières années c'était Ricard Janot le gardien et que bah il est plus tout jeune. Donc il a fait une saison costaud et il mérite sa place. Donc on verra l'année prochaine ce que ça donne avec le nouveau coach Vitor Martins, qui forcément, pour la petite anecdote, est le beau-fils du président de Porto. Et donc c'est pour ça aussi que le président de Porto, il y a quelques semaines, nous a fait une déclaration comme quoi ça serait sympa que l'Académie Viseo monte en première division. Tu m'étonnes. Comme ça, il y aura peut-être 6 points d'un coup, comme ça. Enfin, 12 du coup, parce qu'avec Mounès.
Tu es mesquin, Philippe.
Non, mais c'est particulier ce genre de choses quand même. Hein.
Ouais, c'est le Portugal, non?
Oui.
On est habitué qu'un Georges Koch soit démis de ses fonctions alors qu'il perdait pas un match. C'est,
enfin, mais c'est
chez nous, hein. C'est un peu lunaire. C'est un peu. Mais bon. D'ailleurs, la saison 2017-2018 avec le grand Manuel Cajoud. Il faut le rappeler. Grand entraîneur.
Le grand.
Très grand. Incroyable, mais Manuel Cajoud.
Par la qualité. Pas très grand.
Bon, t'as fait un sujet, Phil. Est-ce que c'est un double sujet, André Clovis ensuite Je voulais parler d'André Clovis aussi.
Non, bah, vas-y. Non, c'est un. Bah, forcément, tu sais très bien que moi, ça reste dans la deuxième division, mais ça va être plus particulièrement par rapport à mon club. Et donc, là, c'est
attends,
pas.
Attends. Parce que j'ai pas demandé à Alex s'il voulait réagir.
Ah oui, pardon.
Et en bon présentateur. Non.
Non,
ok.
Non, il a raison, c'est vrai que c'est il y a coup partiel qu'on voit ça et c'est dommage que Georges Costa était parti sur une bonne lancée, même ce qu'il avait fait à Falen, c'était très intéressant. Je trouve vraiment qu'autant à ses débuts, j'étais pas fan.
Moi non plus.
Autant sur ces deux dernières expériences, je trouve vraiment qu'il fait des choses intéressantes.
Ah, mais c'est dommage. Quand il a été annoncé, hein, et bah, ouais, je vais bien fermer ma gueule.
Ouais.
Bah, tu as rajouté quelque chose, Alex, de très intéressant. C'est vrai que Georges Costa nous intéresse depuis sur ces deux dernières expériences.
C'est ça.
Même s'il est descendu avec Falence, mais oui. Bah Phil, ton deuxième sujet, on entame ce deuxième tour de la draft.
Alors, mon deuxième sujet, bah, toujours comme je disais, deuxième division. Et là, c'est plus schizophrénique, là, c'est cataclysmique, je dirais. C'est la saison du Benfica B, qui est au mieux catastrophique, je pense. Alors bien sûr, on sait que ça a été encore dit aujourd'hui au sein du club que les résultats en formation, c'est pas primordial. Ce qui est important, c'est plus le chemin que le résultat. Mais le problème, c'est que là, il y a ni le résultat, ni le contenu, ni même la progression des joueurs. Parce que tout ce qui est équipe B, U23 essentiellement. On sait que c'est surtout pour développer les joueurs et les préparer au monde professionnel. Alors, ça a très bien marché et je pense que l'intronisation des équipes B en deuxième division est une des meilleures décisions que le football portugais ait pu prendre. Mais cette saison, y a le résultat vraiment pas au rendez-vous parce qu'on se sauve à 2-3 journées de la fin. Je crois qu'on on finit à 3 points de l'échange qui se sauve aussi vers la fin aussi. Mais le contenu était horrible. Alors, heureusement que je travaille le week-end et que j'ai pas pu voir tous les matchs. Mais les quelques matchs que j'ai vus, je me suis souvent endormi. Alors, il y a du spectacle parce que il y a du but dans un sens comme dans l'autre. Parce que je crois qu'on finit quatrième meilleure attaque, mais deuxième pire défense. C'est incroyable. C'est dire, en même temps, quand tu joues avec Jaf Sénac en centrale, t'as un peu tout compris. Mais il y a quasiment aucun joueur qui cette année a sorti son épingle du jeu, sauf peut-être Eric Pereira, qui a évolué à un niveau supérieur à ce qu'on pouvait s'attendre. Enfin, du moins, je parle pour moi. Je m'attendais pas à ce que, surtout au début de saison. Après, ça a stagné un petit peu. Mais il a fait un très bon début de saison. Était souvent décisif. Il y a eu, allez, si on peut être gentil, on peut rajouter Rafael Rodriguez qui a fait quelques matchs solides. Mais c'est vraiment histoire de chercher quelque chose. Cherindour sur la deuxième partie de saison était bien meilleur que ses petits copains, mais c'était trop peu aussi. Et ce qui frappe surtout, c'est la régression des joueurs soi-disant qui étaient partis pour monter en équipe A. Donc je pense à Martinet ou à Luis Semedo, ou Cherindour et surtout Diego Moreira. Ces joueurs qui devaient normalement prétendre à une place en équipe 1 ou un truc assez similaire, qu'ont complètement régressé. Martinet a été blessé certes, mais on n'a pas vu son niveau qu'il a pu nous montrer. Luis Semedo non plus, Diego Moreira encore plus. Quand il rentrait, c'était horrible. Quand il était titulaire, tout autant. Donc un vrai souci de résultats, de fond de jeu, en espérant que cette saison soit un exemple pour que ça ne se reproduise plus. Je demande pas de finir toujours dans les trois premiers, mais au moins qu'on voit qu'il y ait du travail, chose que cette année a été très compliquée à voir, sans parler du fiasco de la Youth League aussi, qui a été tout simplement honteux. Donc il paraît qu'en interne, ça nous annonce que l'année prochaine, il y aura un peu plus d'investissement et une équipe B plus compétitive. Bah, vu le choix du coach, j'ai mes réserves, mais ma foi, j'attends de voir.
Donne-nous le nom du coach, Phil.
C'est bon. Le retour de
ce bon vieux Nelson Virissimo. Les copines.
Ça a été officiel ? J'ai pas vu le coach.
J'ai pas vu l'officialisation, c'est vrai.
J'attends pour critiquer, moi, pour le coup.
Bah après,
t'attends
je me dis...
quoi ? T'attends l'officialisation ou t'attends les premiers matchs ?
Oh non, je dois si tu fais revenir Nelson Verissimo et que tu mets Arojo en U19 ou en U23, je ne sais plus, je crois que tu le fais.
Je crois que c'est
en U19. Pour moi, ce sera vraiment la première grosse erreur de Rui Costa et franchement, là oui, ça mérite critique hein, parce que il y a aucune progression de par rapport à l'année dernière et surtout, tu n'as aucune perspective de l'avenir avec le retour de Nelson Verissimo et le fait de faire monter Luis Arojo. En U19, honnêtement, je ne comprendrais pas du tout.
Non, mais c'est pas comme si c'était un gars qui était connu pour très bien travailler avec les jeunes ou quoi que ce soit. Enfin, et puis même, moi, je considère que son passage à Stuttgart a été un échec parce que on était en droit de demander mieux, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats. Et même pour lui, revenir d'une première division, alors très bien que c'est son club de cœur, mais... Je sais pas, je suis un petit peu mitigé. Je pense que, enfin, je connais pas tout le marché des entraîneurs, mais je pense que il y avait des idées bien plus intéressantes à aller chercher. Parfois, on va attendre de voir. Hein.
Ouais, non, mais ouais, on attendra que de critiquer entre guillemets quand Alex l'a bien dit, tant que ce sera officiel. Mais il y a quand même, enfin, c'est quand même sacrément important d'avoir une solution fiable dans l'équipe secondaire de ton club. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Nous, à Braga, par exemple, on l'a bien connu. Hein. On avait des entraîneurs à partir en cours de saison et savoir qu'on a un entraîneur en équipe B qui est à peu près compétent et qui peut potentiellement au moins tenir la baraque au minimum, soit être ton entraîneur d'équipe première après au maximum. C'est quand même important. Alors ça, je veux dire, à Benfica, après le départ de Jesus, il y a un an et demi, Verissimo a tenu l'intérim. Il n'y a pas eu de catastrophe, mais on était quand même, pas beau, hein, on va pas se le cacher, côté Benfica, à part les champions. Et encore, merci Darwin.
Ouais, c'est un feu de paille.
Oui, c'est un gros feu de paille. Mais je suis, Je prends les paroles du chef, attendant que ça soit officialisé. Deuxième sujet pour Alex.
Alexandre. Pour moi, là, du coup ?
Là, c'est pour toi.
Ok, c'est pas pour toi ? C'était pas pour toi qui a commencé ?
C'est moi qui ai commencé, mais on fait dans l'ordre inverse, donc après,
okay,
c'est toi.
Oh, ok, let's go. Attends, merde, je l'ai perdu.
C'était pas forcément mieux de te commencer premier. Parce ouais, que là, vous avez pris André Clovis et Femme à l'écran 19. Donc
Ouais, non, et j'en ai un autre, du coup.
Vas-y.
Le fait que le championnat de Dedo la saison prochaine risque d'être très intéressant. Déjà, il y a les retours de historique, donc comme Lely et Belenenses qui revient dans D2 et que je trouve ça c'est très très bien pour le football portugais parce que ça reste des historiques. Lely a rempli son stade de façon spectaculaire alors que j'étais en D3. Le stade est de très bonne qualité, donc on a besoin d'avoir ce genre d'équipe et de club dans nos divisions professionnelles, et ça je suis très content pour ça, surtout qu'ils ont un entraîneur très compétent en la personne de Vasco Botelho. Qui du coup reste sur 3 années consécutives en remportant des titres, que ce soit avec Estoril en U23, où il a fait 2 fois le doublé championnat U23 et coupe U23, et là il fait monter dès sa première année l'Elia, donc je suis très très content pour ça, parce que c'est un club qui est historique au Portugal, et on doit voir ce genre de club au Portugal. Et Belenenses avec voilà, on sait que c'est un des champions du Portugal, voilà, il n'a pas eu beaucoup, à part, enfin, autre que Benfica, Sporting et Porto, tu as eu Boavista et aussi Belenenses, donc ce club, pareil, doit être dans les divisions professionnelles. Il n'avait rien à faire en D3 ou même plus bas. Et on est très très content de son retour dans l'élite portugaise. Avec aussi, là aussi, un entraîneur très très compétent qui est Bruno Dias, qui est très jeune, 36 ans. Vasco Botelho, pareil, est très jeune aussi, 35-36 ans. Et d'avoir ce genre d'entraîneur très compétent aussi jeune, c'est de très bon augure pour le Portugal. Et vraiment, ça fait plaisir de voir ces deux clubs en deuxième division. Et je pense que du coup, ils vont apporter une autre compétitivité, une meilleure compétitivité, un autre gage de qualité au sein de cette division, et du coup bah, elle risque aussi d'être du coup très intéressante à suivre. Et et je voulais rajouter aussi qu'il y a du coup le Lank FC qui a été racheté par des groupes canadiens, donc c'est un club qui appartient, qui du coup qui est dans la ville de Villa Verdens, et du coup bah voilà, avoir aussi ce genre de projet au sein d'une division professionnelle, donc voilà, un groupe canadien qui a acheté ce club-là à hauteur de 90%. Ils avaient pour objectif de monter très rapidement en D2 pour ensuite construire un peu plus leur projet plus solidement, et voilà, c'est une bonne chose. Tu as les 3 clubs qui sont montés, qui sont très intéressants, avec des projets très intéressants. C'était les 3 clubs que je voulais au début, avec ça m'aurait pas dérangé de voir un Braga B ou un Vitória B monter aussi, parce que ça c'est un truc où je suis pas vraiment d'accord avec Mathieu, mais je rejoins, je suis d'accord aussi avec ses arguments, mais je pense que pour moi c'est toujours plus c'est toujours mieux d'avoir une équipe B en deuxième division. Donc voilà, j'étais pour ces 3 équipes là, ou Braga ou Guimarães, et au final les 3 équipes que je voulais sont montées, donc très content de voir ces 3 équipes là en D2, et ça va donner encore un peu plus de raisons de suivre ce championnat qui reste très compétitif, qu'on met un peu de côté. C'est vrai qu'on a tendance à pas trop en parler, et se faire ce genre de podcast, ça permet de les mettre en avant, et c'est un championnat comme la D3 d'ailleurs, c'est là où je rejoins Mathieu, c'est que ça reste un championnat très compétitif, sont très intéressants à suivre au Portugal.
Je t'adore Alex, parce que t'as quand même dit Guimarães qui descend en D4 alors que t'as pas dit le Sporting.
C'est vrai, j'ai oublié.
le oublié.
J'ai totalement oublié. Pour moi, c'est totalement.
Ils n'ont pas fait une mauvaise saison. Ils ont fait l'inverse. Depuis qu'ils sont en D3, c'est leur meilleure saison. Avec une équipe très très jeune. Donc,
du coup, on espère qu'ils monteront l'année prochaine avec Braga B.
Oui, de toute façon, il n'y a que 2 équipes B qui peuvent monter. C'est ces deux-là. Mais oui, je dis pas que c'est dramatique si on monte en deuxième division.
Oui.
Mais ouais, je trouve que c'est pas dramatique qu'on soit resté en D3. Je trouve que voilà, c'est encore assez compétitif pour faire évoluer nos jeunes, et un certain Vitinha n'a jamais joué en deuxième division et a pourtant réussi à évoluer en D3. Donc il y a une compétitivité qui diffère, bien sûr, mais qui est pas aussi énorme que je pense pas qu'elle soit aussi énorme que ça. Ok Alex, merci. Je sais pas si Phil veut rajouter quelque chose.
Non, pareil aussi, assez complet. Donc j'avais fait un focus aussi sur les 3 montées là, en Liga 3, mais tu as, Mathieu, très bien parlé du Lank Vila Verdense, Alex a très bien parlé de Lady et du vrai Bolonês. Donc non, rien à rajouter.
Le vrai Blenien, c'est d'ailleurs qui a dû monter dans les divisions professionnelles, et qui a donc eu le choix de créer une SAD Oui, une SDUQ, SDUQ. Bon, bah, ils n'ont pas pris la SAD, hein, je vous rassure. Hein. Ils ont pris la SDUQ, hein, parce qu'ils se sont dit, on s'est fait avoir une fois, on va pas se faire avoir deux fois.
Pas deux, quand même.
C'est j'ai pas le temps d'expliquer, parce que faudrait que je revoie un peu mes fiches, hein, mais c'est un statut social un peu différent, voire bien différent de la SAD. Il y en a quelques-uns au Portugal, Passo c'est comme ça, Casapi est comme ça, ils veulent changer aussi. Bon, c'est peut-être un peu plus solide.
Juste oui. Très rapidement, c'est ce genre d'histoire, ça fait plaisir de voir des historiques comme Lady Evelyn remonter au détriment de clubs montés de toutes pièces qui, eux, descendent. Les vrais supporters de Evelyn sont ceux qui faisaient des influences historiques en Liga 13, comme les supporters de Lady, et de voir la belle histoire aussi de Lang qui fait deux montées consécutives. Donc comme quoi, il y a beaucoup de choses de mauvais dans notre football au Portugal, mais il y a beaucoup de belles histoires encore.
On est d'accord, Philippe. Mon deuxième sujet, pour terminer le deuxième de nos trois tours, mon deuxième sujet, c'est mon seul sujet hein, qui est en rapport avec Braga et avec sa formation. On a un peu parlé des 19 tout à l'heure, c'est pas de eux dont je voulais parler. C'est pas des U23, même s'ils ont remporté deux titres cette année, le tournoi d'ouverture et la Coupe Révélation. Mais donc bravo à eux. C'était sympa. Mais non, je vais parler de l'équipe qui a gagné le troisième titre de la formation cette saison. Alors c'est pas clinquant, mais quand même. Parce que donc l'équipe B des U17 de Braga a remporté le championnat de deuxième division U17. C'est un nouveau concept hein, qui est arrivé au Portugal à l'époque, en fait, enfin les années précédentes, donc depuis cette année et donc avant cette année, notamment les clubs comme Benfica et Porto en fait utilisaient deux clubs, donc Palmeiras FC pour Braga et le Padeloiens pour Porto. Vous voyez les gens qui trouvent en fait des jeunes joueurs de U17 prêtés au Padeloiens à Porto et qui s'esclave devant ça, c'est juste en fait que c'est les joueurs U16 pour participer au championnat U17 jouer dans ces clubs là. Donc à Braga c'était la même chose avec le Palmeiras et Porto c'était le Padeloiens à la fois en U15 et à la fois en U17 pour ces deux clubs. Porto, le Sporting et Benfica c'était déjà des équipes B dans les régions de mais dans les districts, donc c'était pas en division nationale, c'était dans les districts de Lisbonne. Et depuis cette année, il y a eu l'autorisation de faire des équipes B de U17. Donc tu peux mettre des U17 là-dessus, mais c'est surtout pour mettre des U16. Pour que les U16 puissent participer à des championnats de U17, mais de deuxième division seulement. C'est comme, finalement, comme en équipe B au Portugal, entre la première et la deuxième division. Tu peux gagner le championnat U17, mais tu ne peux pas monter dans la première division U17. Et c'est ce qui s'est passé cette année. C'est-à-dire que le Sporting Club de Braga B a gagné le championnat U17 de deuxième division face à d'autres équipes U17, avec des vrais U17, donc le Casapi, comme l'a mentionné Alex, avec une équipe plutôt intéressante. Et Maritimo, notamment. Donc je crois que c'est deux clubs qui vont monter, mais c'est deux clubs qui n'ont pas gagné le championnat. C'est les U16 de Braga, c'est la génération 2007 qui a remporté ce titre. Donc le club a pas diffusé beaucoup de matchs, seulement deux, un face à Benfica et un face au Casapi, deux matchs décisifs pour le titre avec une belle génération 2007 du côté de Braga. On l'avait déjà vu un peu avec Alex l'année dernière, mais c'est vrai que cette équipe-là perdait absolument tous les matchs au second, montrait qu'elle était compétitive, mais perdait absolument tout le monde à la fin. Après c'est vrai qu'on avait vu des joueurs quand même sacrément intéressants notamment du côté du Sporting avec des Giovanni Kenda, des Gabriel Silva, enfin des sacrés joueurs. Et nous aussi, on a des bons joueurs, hein, des Garmota, Thiago Macedo, Afonso Patrão, Thomas Müller, Jean Trovisco, Thiago Macedo, José Ferreira, le gardien. Donc, des joueurs qui commencent à signer pro, alors que pour certains, ils n'ont pas joué en U17. Il n'y a qu'un seul joueur qui a fait la saison en U17 en étant en U16 et complète, qui est un de mes préférés aussi, c'est Afonso Sousa, un défenseur central qui commençait au milieu de terrain en U15 et qui s'est vraiment imposé dans une défense centrale à 2 en plus cette année. Il joue dans une défense en 3 son dernier aussi un peu, donc bravo à eux. Très beau modèle de jeu aussi, parce que je sais qu'Alex a parlé des U13 et parce qu'ils ont joué un peu aussi, donc j'essaierai de voir quelques matchs, mais en U16 aussi c'était un 4-3-3 assez classique mais un peu guardiolesque avec des ailiers très écartés, beaucoup de monde dans l'intérieur, un attaquant fort, très fort physiquement aussi pour sa division, donc on verra encore un peu qui est Thomas Müller, donc on verra un peu par la suite, mais des choses très intéressantes en termes de jeu et une performance qui laisse optimiste pour l'avenir et pour le championnat 17 de l'année prochaine, si peut-être qu'il y en aura peut-être déjà certains qui sont déjà en U19 ou peut-être un peu plus haut, je sais pas, mais à fond de tout ça par contre pourrait déjà jouer en U19 la saison prochaine, vu la saison qu'il a faite en U17, donc bravo à eux, et voilà, c'était mon deuxième sujet, les garçons.
Ok, du coup là on repart sur Fibs, ça.
Et donc là,
il n'y a pas besoin de compléter. Hein.
J'avoue qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs.
Hein. C'est ça, hein, génération
2007. Qui n'a pas fait le tournoi. Oui, vas-y.
Ils ont fait le tournoi de Montaigu, c'est ça.
C'est leur tournoi de Montaigu. Ouais. Ils ont fait quoi d'ailleurs? Ils n'ont pas fait grand-chose, si.
Non, ils ont été catastrophiques.
Est-ce que c'est que leur faute? Si je dis ça, je vais lancer Alex sur la fédération.
Je vais l'attendre.
La fédération, ceux qui regardent un peu l'U21 sont au courant. Donc voilà. Et petit big up comme à nos vrais U17, hein, qui ont fini 4e et qui ont fini qu'à un point de Porto et du Sporting cette saison, et qui ont, avec une génération moins talentueuse que les 2005 l'année dernière, ont fait une très belle saison dans le jeu. Et voilà, parler de Pedro Pires, notre coach en U17 qui est là depuis des années et qui finalement doit toujours rendre son équipe compétitive avec des générations parfois qui futuent quand même beaucoup en termes de talent. Cette année, c'était pas mal, mais c'était bien moins que les 2005. Donc, il y avait certains matchs qui étaient un peu moins esthétiques, on va dire ça comme ça, même s'il y avait quand même les résultats. Mais il y a quand même pas mal de joueurs qui ont progressé, donc bravo à lui. Dernier round, c'est moi, puis Philippe, puis Alex.
C'est ça.
Et oui. Donc, dernier sujet. Je vais parler. Je voulais parler un peu d'André Clovis, Philippe l'a déjà fait. J'ai voulu parler de du Famalicão. Vas-y. Parce qu'il n'y a pas que lui. Donc je vais faire comme Philippe, je vais pas parler que de lui. Non, c'était par rapport à deux joueurs vraiment. Il y a d'autres joueurs en D2 cette année qui ont été intéressants. Hein. Raphaël Bandera du côté de Badvisé, Phil, poste d'arrière droit, Laurent Sofori, le gardien Domaine Grill. J'avais du mal à retenir son nom. Mais Pedro Aparicio du côté de Moreirense, Paulinho, donc qui est Telestriel, je crois qu'il est parti au Danemark et qui vient de signer à Portimonense aujourd'hui, je crois. Attaquant ancien de FAF, attaquant intéressant depuis quelques années dans les divisions inférieures et qui va connaître la première division cette année. L'éternel Marco Matic, Telmo Arcanjo, qui a signé à Guimarães, mais blessé, je crois aussi, qui a fait une super saison à Tondel. Donc voilà, mais oui, bon. Après, je trouve qu'il y a quand même deux joueurs qui... On peut sortir un peu du lot. Après, il y en a peut-être, je suis pas si objectif que ça. Bon, il y en a un, c'est André Clovis, hein, Philippe l'a dit, un attaquant surpuissant. Hein, il y a eu pas mal de pénaux et que c'est reste qu'au-delà des deux. Marquer 31 buts, toutes compétitions confondues, 28 en championnat, c'est pas banal au Portugal dans les divisions inférieures. C'est un championnat qui reste quand même la D2 compétitive dans le sens où t'as beaucoup d'équipes qui restent parfois un même niveau, donc t'as des matchs qui sont parfois aussi assez serrés. Donc, être autant régulier et finalement assurer autant de buts, c'est presque un miracle que Vizé ne soit pas allé au moins dans les trois places cette saison. Quand t'as un mec qui te met 28 buts en cette saison championnat, bon, c'est dire que ça ne fait pas tout. Donc voilà, André Clovis qui est un attaquant qui devrait. Enfin, je vois pas beaucoup de rumeurs, mais je vois pas pourquoi il resterait à Vizé. Bon, parce qu'il était Estoril, donc ils ont débloqué sa clause, mais je vois pas pourquoi il reste à Viseu cette année. Je pense que c'est un attaquant qui peut aller plus haut au Portugal, mais voire à l'étranger. Donc attention. Mais vraiment dans la surface, dans le jeu de tête, dans le positionnement dans la surface. Vraiment, un attaquant qui a pas mal progressé, qui a été surpuissant et comme l'a dit Philippe, a mis des buts, des sacrés buts cette saison. Celui-là à Tondel, aller le voir est extraordinaire. Au bout d'une minute de jeu seulement. Et pareil d'un autre joueur, voilà, Kobamelo Kodisang, le sud-africain de Moreirense, qui a joué un peu plus ailier, qui a joué un peu des deux côtés cette saison, alors que d'habitude il était plus ailier droit, mais il est droitier, qui a fait aussi une très 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 belle saison, un joueur qui est parti officiellement aujourd'hui, qui a signé officiellement Moreirense, qui était prêté par Braga. C'est un joueur qu'on a connu, qui a joué en D3, qui a joué en D2 cette année, et qui aujourd'hui va connaître la D1, un ailier extrêmement vif, des appuis vraiment extrêmement véloces. Qui a plutôt pas mal progressé dans son approche du but aussi, dans le contrôle orienté entre les lignes pour ensuite trouver, pour à la fois attaquer la profondeur ou à la fois servir. Enfin, un joueur assez complet, bon, assez petit, assez frêle et qui en termes de duel des fois a toujours un peu de mal, mais enfin cette année ça allait encore, donc il y a eu aussi une progression à ce niveau-là, mais un garçon qui a été un facteur X de la belle saison de Mogelians, qui a fini premier, qui a été champion de Ligue 2 au final, on l'a pas mentionné auparavant, donc voilà, une très très belle saison de sa part, entre autres, mais voilà, je voulais mettre en valeur ces deux joueurs qui pour moi ont été un tout petit peu un ton au-dessus de tout le reste en D2 cette année. Les garçons.
Ok. Non, bah pas
de réaction.
Pas de réaction.
Et bah ce sera à Philou pour ton dernier sujet, Philippe.
Bon, écoute, toujours, je pense que je reste toujours un peu au même endroit. mais je vais descendre en termes de quoi?
Le mec, il veut pas se diversifier.
Non. Je parle plus des trucs de chez moi. mais ça va être surtout la saison des jeunes au global. Alors, c'est vraiment faire un focus sur plusieurs catégories. Cette saison, elle est très mitigée parce que t'as des satisfactions chez les plus jeunes, notamment les U15, U17. Mais l'équipe B, bon, j'en ai parlé, c'est catastrophique. Les U23, ça a été vraiment aussi en deçà de ce qu'on peut attendre d'eux. Et les U19 aussi, un peu compliqué. Donc ça, Alex avait déjà touché un petit mot par rapport à ça. Mais le problème, enfin problème, je sais pas si c'est un problème au niveau des résultats, mais c'est que, encore une fois, comme on disait, ce qui prime, c'est le développement des joueurs. Donc tu vas avoir beaucoup de joueurs qui vont commencer une compétition, je pense notamment au U19, des gars comme Jean Vlose notamment, ils vont commencer au U19, puis après ils vont finir la saison U23. Mais le problème, c'est que ça profite ni forcément à une des sections, ni forcément à l'autre. Parce que si tu regardes la deuxième phase des U23, elle est aussi bonne que celle que la saison de l'équipe B, donc tout aussi cataclysmique. Et même chez les jeunes, bon, sur la première phase ça commence bien chez les U19, la deuxième phase au final on finit très loin derrière les autres, donc c'est Femme Américain, je crois, qui finit champion. Derrière, on finit même par les matchs contre. C'est ça, hein?
Oui, c'est ça. Et ouais, tu prends une raclée la dernière journée pour que Femme Américaine soit champion.
Ouais, bien, cool. On a perdu, on perd contre Porto. Je crois qu'ils nous mettent 3-1, je crois, avec le doublé de Walkande. J'ai vu ce match. Je sais pas pourquoi. J'aurais pas dû, peut-être. Donc, il y a quand même des trucs sympas. Au niveau des joueurs, hein, je te parle. Par exemple, Spencer, cette année, il a montré de bonnes capacités. Jean Vlose, il a montré encore aussi que ça pouvait être ce joueur qui peut prétendre à autre chose. Le problème, c'est souvent l'agent, parce que, comme on sait, son agent est un peu en brouille avec la direction, donc sa rénovation... Renouvellement des Jean Vlose comme Raphaël Louis d'ailleurs, parce qu'ils ont le même agent, n'est pas encore certaine, alors qu'on vient d'apprendre que Martinet venait de renouveler pour 4 ou 5 ans, il me semble. Donc comme quoi ça peut changer. Mais il y a eu beaucoup de joueurs surclassés cette année, notamment au U19. Donc, je pense qu'après Alex, ça sera son dernier sujet, et il en parlera beaucoup mieux que moi. Mais donc la principale satisfaction, c'est vraiment pour les U15 et les U17. Les U17 font une saison incroyable. Alexandre m'avait parlé surtout d'Olivier Toumet. Force est de constater que le monsieur a du pif, hein, et pas qu'un peu, parce que du coup il y a eu certains joueurs qui sont venus faire le tournoi à Lille là. Donc j'avais demandé un peu Alex en termes de noms, parce que souvent tu vois que les numéros et tu sais pas trop à quoi te référer. Il m'avait donné quelques noms. Le monsieur maîtrise son sujet visiblement. tout ce qui est mineur en short, il est. Merci. Là-dessus, il est fort. Donc voilà, tu vois que chez les plus jeunes cette saison, tout n'est pas acheté au sein de la formation, parce que les U15 et les U17 ont fait une très bonne saison et c'est les principales satisfactions au sein de la formation. Maintenant, plus haut, ça a été un peu plus compliqué, donc les U19, les U23, sans parler de la baie qui est catastrophique. Donc, je sais pas s'il y a peut-être ce truc de vouloir les faire progresser trop tôt, mais visiblement, c'est un parti pris et ça a été confirmé encore aujourd'hui. Donc, pourquoi pas. Maintenant, faut faire attention à pas brûler les étapes et qu'après le relais soit bien fait au niveau des étages supérieurs. Donc, à voir. Moi, j'avais un petit peu peur de ce qui pouvait arriver, qu'il y ait une espèce de creux générationnel. Mais visiblement, les plus petits s'en sortent bien. Faut voir juste dans la continuité si ça suit tout simplement.
Après, je sais pas si vous êtes d'accord. Enfin, en 2017, j'ai trouvé que en termes de jeu collectif, tu peux mieux
C'est pas
faire.
ça. Ouais.
Alors que c'est vrai que tu as des
Mais...
individualités, Gonzalo Moreira, par exemple, tu as parlé de Lyotomé, celui qui m'a vraiment impressionné, c'est Gonzalo Moreira. Bon, quand tu mets 28 buts et que tu as ce niveau-là en U17 et que tu pourrais déjà jouer en U19, bon, ça te facilite un peu les choses. Et j'ai pas trop, voilà. Et U15, j'ai pas regardé. Donc, je serais pas définitif sur la saison 17, mais ouais, c'est vrai que globalement, et je dirais pas qu'à Benfica, mais globalement, la saison en formation a pas été incroyable. J'ai pas
Ouais,
pris
clairement,
beaucoup de plaisir
clairement.
cette année, hein.
Ça leur restait tellement
Que ce soit pour
catalan.
mon club ou que ce soit en voyant les autres, hein, donc voilà.
Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure et mon premier point, c'est que je sens vraiment qu'il y a une baisse de talent au prochain. Enfin, j'ai pas envie de dire talent parce que tu as quand même des très bons joueurs. Tu l'as cité avec Gonzalo Moura qui est un excellent joueur et qui finira pro, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais t'as pas ce joueur ou des joueurs comme on a pu le voir au Portugal. Moi, on a formé des Cristiano Ronaldo, des Quaresma, même s'il a pas fait une grosse carrière, c'était comme un crack absolu. Bon, après, il a fait des mauvais choix, mais c'est comme ça. Mais en jeune, c'était un crack absolu. Nani, enfin, des mecs. Enfin, non, pas des coups parce qu'il est aussi, mais enfin, vous m'avez compris, des Rui Costa, etc., vraiment des potentiels ballons d'or. Et là, je trouve qu'il y a un creux, il y a un creux générationnel et ça remonte jusqu'au facile 2010, tu vois. Enfin, il n'y a que vraiment sur la génération 2010-2011 où tu vois vraiment 4, 5, 6 joueurs qui sont au-dessus de la moyenne. Là, sur les générations donc 2007, 2006, 2008, 2009, t'as un, deux joueurs qui sont au-dessus, mais le reste, c'est bon, mais sans plus, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que du coup, ça sera mon dernier point. Qu'il y a un manque de compétitivité au sein de nos sélections, au sein de nos championnats U19, U17, qui sont assez criants, je trouve.
C'est
Du
ton
coup, bah,
dernier
je peux
point,
lancer.
Alex. Oui, tu
Non,
peux
non,
te le.
non, non, je peux continuer du coup? Je voulais
Bah
savoir si tu avais quelque
oui.
chose.
Ah
Ok,
non,
bah.
ouais, tu peux y aller.
Du coup, bah, par exemple, déjà, je me suis arrêté au U17 parce que j'ai trouvé que. Il n'y avait pas de si bonne équipe que ça, encore une fois, collectivement parlant. Que ce soit Benfica, oui, tu avais un Gonzalo Moreira qui était au-dessus du lot. Mais j'ai pas trouvé que c'était l'équipe qui m'a le plus impressionné et j'ai pas eu d'équipe qui m'ont vraiment impressionné sur ce championnat-là. Et les 19, on en a déjà parlé. Et t'as les U15 où vraiment, du coup, à Benfica, pour moi, c'était vraiment la meilleure équipe et c'est peut-être la meilleure équipe de la formation. On en a parlé un peu en off lors de notre réunion vendredi et je disais déjà que oui, les U15, c'était vraiment la meilleure équipe de la formation. Donc, c'est la génération 2008 qui voilà. Là, vraiment, tu vois, là, déjà, tu commences à avoir un peu plus de talent, comme Thomas Suarez, comme Steven Manuel, comme Raphaël Quintes, qui sont vraiment d'excellents joueurs. Et là, oui, on retrouve un peu ce qu'on a l'habitude avec le Portugal. 3-4 joueurs vraiment qui sont très, très, très forts. Mais voilà, c'était Benfica, vraiment, ouais, au terme des formations, j'ai pas trouvé que c'était une année exceptionnelle. Ils s'en sortent avec deux titres. Même trois, parce qu'ils ont gagné en sorte la Coupe internationale incontinentale en U19.
C'est vrai.
Donc, ils gagnent aussi le championnat U17, ils gagnent le championnat U15. Donc, ça démontre aussi que pour moi, ça reste un meilleur. Le Seychelles reste le meilleur centre de formation du Portugal, parce que même dans une année où t'as pas vraiment d'énormes talents collectifs, bah, tu fais trois titres quand même, c'est pas à négliger. Donc, voilà, bravo à eux. Mais c'est vrai que pour moi, la U15 était la meilleure équipe. Et enfin, bah, pour rebondir un peu ce que Mathieu, tu l'avais un peu deviné, c'est sur la fédération portugaise. On ne pouvait pas faire ce podcast sans tirer dessus. Pour moi, en tout cas,
Bah,
c'était pas
tire dessus.
possible. On tire dessus et on va continuer à tirer dessus tant qu'il y aura ce manque d'exigence. Et ça va au niveau des dirigeants comme au niveau des supporters. C'est pas possible aujourd'hui d'être le Portugal, de se considérer comme un pays de football, comme une grosse nation de football. C'est ce que les gens me disent. Ce qu'on a eu l'habitude de se. Enfin, moi, j'ai grandi avec un Portugal compétiteur, un Portugal compétitif, même si on ne gagnait pas, au moins on allait loin, on jouait bien. Et c'est pas possible aujourd'hui d'avoir des supporters qui se contentent juste de 4 victoires contre Luxembourg, contre l'Islande, contre la Bosnie, contre Liechtenstein. Et voilà, dans le contenu, on doit s'attendre beaucoup plus. Et au-delà de ça, du contenu, on peut même parler des résultats. Bah, oui, on est premier de notre poule, mais on a fait une Coupe du Monde catastrophique, éliminé contre le Maroc. En U17, on sort pas des poules. Alors oui, on tombe contre la France et l'Allemagne, mais on est totalement honteux contre l'Allemagne. On se fait totalement dominer d'une façon scandaleuse et honteuse contre une équipe d'Allemagne qui était forte, mais je trouve qu'il y avait quand même mieux à faire. À l'Euro 21, là, qui est en train de se passer actuellement, on est passé, mais de justesse grâce à un joueur belge qui a décidé de tuer sa sélection. Sinon, on était encore éliminé au premier tour. Enfin voilà, c'est au moment, il faut être un minimum exigeant avec notre pays. Alors oui, on n'est que 10 millions, mais je pense que si le Portugal veut progresser et veut lutter pour des titres prochainement, on doit, nous, supporters, déjà être exigeants avec notre sélection et on ne doit pas se contenter juste de gagner contre l'Islande ou quoi, parce qu'après on le paye, de toute façon tu ne gagnes rien en jouant mal, et ça on a beau le répéter maintenant depuis 6 ans, 7 ans, oui les gens disent oui mais il faut attendre, oui on est qualifié pour 6, oui mais à la fin on se prend des claques à chaque fois, ça a été le cas en 2020, ça a été le cas en 2018, ça a été le cas en 2022, et on continuera comme ça tant qu'on n'aura pas une grosse équipe de football, une grosse sélection. Donc ça c'était ça, et ensuite c'est pas normal pour la fédération, comme un pays comme le Portugal, qui est pour moi avec l'Allemagne le pays qui forme le mieux au niveau des entraîneurs. On a des gens qui sont très, très, très compétents. On a des universités qui sont très, très compétentes pour ça. On a vraiment des très, très bons techniciens dans chaque club. À l'étranger, même, ils vont tous... Enfin, l'étranger vient chercher au Portugal. Et moi, ça me rend ouf qu'en sélection, on a Roberto Martinez comme sélectionneur principal, Rui Jorge, Felipe Ramos, Joaquim Milheiro, José Lima qui a 65 ans, et João Santos qui a facile 63 ans. Donc, au bout d'un moment, c'est pas normal quand t'es le Portugal, d'avoir autant de talent au sein de ton pays et de chercher des entraîneurs qui sont totalement dépassés par le foot actuel. Le seul, à peu près, le seul, et encore, je mets des guillemets, qui a, allez, on va dire les deux seuls, c'est, on va dire, Roberto Martinez et Rui Jorge, qui ont à peu près un football un peu plus moderne que les trois autres. Parce que les autres sont vraiment totalement dépassés. C'est leur 4-3-3 avec une pointe basse en sentinelle, des ailiers rapides et vas-y, on balance sur eux. Donc, c'est vraiment ça, aujourd'hui, le football portugais au sein de nos sélections. Roberto Martinez et Rui Jorge, c'est un peu plus du jeu positionnel avec occupation des espaces. Enfin, il y a une certaine idée, j'en suis pas totalement fan parce que tout n'est pas bien fait, mais au moins il y a un football un peu plus moderne. Mais ensuite, quand tu montes des U19 jusqu'au U15, et j'ai malheureusement là, le malheur de voir ces matchs-là mais parce que j'aime ça, c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Et si on se plaint, c'est pas pour se plaindre, si on critique, c'est pas que pour critiquer, c'est parce qu'on va droit dans le mur en continuant comme ça, avec des entraîneurs qui sont totalement dépassés, un manque de talent, je trouve, qui est, comme je viens de le répéter, comme je l'ai dit, qui a un manque de talent au Portugal à cause du Covid sûrement, et il faut attendre les générations 2010-2011 pour voir vraiment des cracks sur chaque ligne du terrain. Moi, je suis inquiet si les choses ne bougent pas. Il y a encore le temps, parce qu'ils sont encore très jeunes, ils peuvent progresser, on a vu avec un Raphaël Léon qui a progressé en un été, rien n'est impossible dans le football. Aujourd'hui, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle du lendemain. Donc je ne tire pas de conclusion, je dis juste que si on continue à mettre des sélectionneurs totalement dépassés et à mettre des éducateurs pas assez compétents, le Portugal va droit dans le mur. Maintenant, si ça vous va et que certains ne sont pas inquiets, tant pis. Mais ce qui se passe au sein de notre fédération est inquiétant et je trouve que c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme parce qu'il n'est pas encore trop tard.
Merci pour ce plaidoyer, Alex. Je souscris, j'ai pas de feuille, mais si j'avais une feuille, je signerais en bas. Non, ça me démotive, hein, parce qu'il y a encore quelques années, je regardais quand même pas mal tout ce qui était U17, U19 aussi. Enfin voilà, et là, je souffle tellement. Enfin, je souffle beaucoup quand même. Enfin, à part pour les compétitions internationales, et encore, t'as bien raison de dire qu'il y a il y avait des générations de fou, les 99, même le bon était incroyable. Oh, ouais. Même les 4. Même si après ils ont pas fait des armes carrières, tu vois, un Pedro Martello, je pense à Robin Pina, des joueurs que ils entraient, en U19 ils étaient incroyables, ils étaient capables de t'apporter quand t'avais besoin par rapport aux autres. En 2018 tu gagnes sans Leao, tu gagnes sans Dalot, oui, tu gagnes sans Hugo Leite et tu gagnes en U19 avec Trinquant et Jota notamment. Et heureusement que tu avais ces individualités, parce que sinon tu n'aurais pas fait. Et je veux dire, on se qualifie même pas tout le temps pour toutes les compétitions internationales. L'année dernière, on n'était pas dans l'Euro 19. Et c'est on avait une sacrée génération. Donc, ouais, je souscris, je signe en bas.
Voilà. Mais c'est encore en quelque sorte. Voilà, faut se réveiller très vite, que ce soit au niveau. Bon, des clubs, je suis pas trop inquiet. Des clubs, c'est vraiment. Je pense dans les clubs, il y a vraiment des très bons éducateurs. Et je pense vraiment que le manque, on va dire, de crack c'est vraiment dû au Covid qui a fait vraiment de mal. Et on avait, je sais pas si tu te rappelles, tu avais Choix de Carbone, là, ou Jour, je sais plus, au Jour, je crois, qui avait sorti un article en justement en mettant une sorte d'alerte que ça allait être compliqué dans les années qui arrivent après Covid, parce que justement les joueurs n'avaient pas joué depuis 2 ans, etc. Et c'était normal ce qui se passe. Ce qui se passe en termes de championnat U19, U17, etc., en termes de niveau,
ouais, c'est
je suis
possible.
Pas inquiet parce que ça va revenir. Par contre, moi je suis inquiet, c'est pour au sein de la sélection parce que les entraîneurs sont juste incompétents et ne font progresser aucun joueur. Et moi je me dis, demain je suis dans mon club et je vais en sélection, je souffle parce que je vais passer mon temps. Voilà, c'est vraiment le football de sélection. C'est aujourd'hui point de base, 4-3-3, et long ballon sur nos ailiers qui courent vite, et terminé. Et aujourd'hui, quand t'es Portugal, c'est pas possible de voir ce genre de football.
Philippe, quelque chose à rajouter?
Malheureusement, on sait très bien comment ça va finir. Tant qu'il n'y aura pas de catastrophe en fait, il faut qu'il y ait un problème qui arrive tout en haut de la pyramide pour que tout bouge. Ça a été le cas dans les autres pays, et je pense que tant qu'il n'y a pas d'énormes catastrophes en haut, malheureusement, il n'y aura rien qui bougera en bas. Je pense que les bons formateurs, ils ont plus envie de projets de club, parce que tu as ce truc de terrain quotidiennement, et tu travailles tous les jours et tu as plus de temps pour développer tes idées. Je pense qu'aujourd'hui, un poste en sélection, c'est limite la planque. C'est presque une pré-retraite, voire une retraite, visiblement.
Bah, c'est énorme. Les gens, ils sont là depuis 10 ans. Hein.
Non, mais.
Rui-Georges, il a survécu à une non-qualification à l'Euro 2018-2021.
C'est un truc.
Tu te rends pas compte, hein. C'est un délire. Hein.
Mais après, il n'y a pas que chez nous.
2019, hein, 2019.
Un mec comme Sylvain Ripoll, il est encore.
Oui, je suis d'accord. Non, mais après, c'est pas parce que les autres font des bêtises qu'il faut les copier. Hein. Il faut copier les bonnes idées, hein, pas les idées de merde. Hein.
Mais bon, eux, ils ont la chance d'avoir des formations sur des générations et des générations.
Mais
impressionnant.
Et j'ai envie de te dire, l'équipe de France, parce que l'équipe de France gagne pas grand chose. Enfin, gagne, si. Mais elle gagne, selon moi, elle gagne pas autant. Alors pourtant, elle a des générations de fous. Et que aussi l'influence d'un projet collectif d'un sélectionneur est quand même reste quand même très 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 important, même quand t'as des générations de dingue. Hein. Donc nous on est loin de là, mais je suis d'accord avec Alex, il y a une différence abyssale de niveau des coachs entre les sélectionneurs de tous les de tout, quand tu vois leurs équipes de toutes les générations, U19, U17, U15,
je vois pas trop. Tu prends l'exemple et U21. De l'Espagne dans les années 2000, entre 2000 et 2010, où ils ont quasiment tout repris à la base, et en fait tout était calqué. Bon, après c'est une idée de jeu qui aujourd'hui ne peut plus fonctionner.
Ouais, voilà, c'est vrai. T'es en termes d'idées, c'est en termes de principes. Oui, t'as son un schéma préférentiel, mais le nôtre, il y a pas de dynamique, hein. Il y a un schéma et un 4-3-3, et quand tu regardes les matchs, tu vois rien.
Oui, mais
rien en termes de jeu.
Tu peux avoir un 4-3-3 si tu formes plus de déliés.
Ça, je suis d'accord. C'est comme si tu avais tout le temps les mêmes générations. Tu vois, c'est aberrant. Tu vois,
pendant des années, on était pourvoyeurs déliés virevoltants techniques. Et
aujourd'hui, ouais, mais c'est pas grave ça. Si à la place d'avoir des super déliés, t'as des super latéraux qui font tout le couloir, et t'as une équipe hyper dominante, et que t'as des centraux qui sont capables de gérer quand même 40 mètres dans ton dos, et que t'as des joueurs qui sont super bons à l'intérieur, un 3-4-3 ou fais quelque chose. Ou un 4-2-3 à l'intérieur, enfin fais quelque chose. Mais.
Non, mais adapte-toi en fonction des effectifs que t'as.
Non, mais je sais bien que je suis d'accord.
Il y a un argument qui est juste factuel et réel, et qui démontre à quel point le Portugal est totalement à l'ouest, c'est ça fait combien d'années que le Portugal n'a pas participé à une Coupe du Monde 2017 et à une Coupe du Monde 2020.
Ouais.
Voilà.
Coupe du Monde 2020, est-ce que la dernière, ça serait pas celle de...
C'est 2019. Ouais, c'est...
Voilà, 2019. Ça fait 4 ans que... C'est quoi, c'est tous les 2 ans, je crois, c'est ça, hein. Donc ça fait déjà 2...
Après, il y en a une qui a sauté à cause du Covid, mais oui, ça fait...
Mais dis-toi que l'Israël a plus de participation que nous récemment à une Coupe du Monde de 2020. À partir de là, moi, ça veut tout dire, c'est que on travaille très très mal au sein de notre fédération. Donc aujourd'hui, les gens ne savent pas, parce que tout le monde ne regarde pas forcément les catégories de jeunes ou ne s'inquiète pas. Ce qu'ils voient, c'est juste Roberto Martinez, 4 victoires, 4 matchs contre l'Islande.
Même ça, c'est inquiétant.
Parce qu'en termes de jeu, il se passe rien. Mais nous on est là pour ça aussi, on tient ce média-là pour ça. C'est aussi, tout n'est pas beau. Et un jour, peut-être que ça arrivera, je l'espère, et dans ce cas-là, on ne critiquera plus, on applaudira parce qu'on l'a déjà fait. Mais là, c'est vraiment inquiétant, c'est parce que, au sein des jeunes, et Coupe du Monde 2007, je ne sais même pas si on a déjà participé. Moi, depuis que je suis cette sélection, donc ça fait depuis maintenant.
17, j'ai pas souvenir.
j'ai pas 17 qu'on, ouais, j'ai pas de souvenir qu'on ait participé à une Coupe du Monde U17. Et voilà quoi, ça veut un peu tout dire.
Mais je suis d'accord avec toi, Alex.
Mais toi qui suis un peu le football scandinave, Mathieu, tu vois bien que quand les sélections de la Norvège, le Danemark, mais
il faut même pas aller, oui, faut pas aller super loin. Enfin, c'est ahurissant de penser qu'avec un système, t'arrives à faire tout le temps la même chose. Enfin, comprends pas. Ouais, non, mais surtout que c'est vraiment, c'est un truc, c'est en plus, c'est hyper frustrant. C'est, t'as l'impression que c'est, qu'il y a rien, en fait. C'est vide en termes de jeu. Des équipes, c'est vide. C'est, non, tu vois, parce que Rui Georges et je vais pas dire Roberto Martinez parce que, parce que c'est pas la formation. Allez, c'est un football de très haut niveau, donc. Et Rui Georges, c'est U21, c'est déjà, t'as des U23, hein, l'Euro U21. Hein, c'est un Euro un peu bizarre, hein, parce que Balorys, c'est son deuxième Euro U21, il a 23 ans, donc Vitinha aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, mais si tu t'enlèves ces deux-là, tu as toujours le même système, t'as toujours, et en plus, dans ces systèmes-là, intrinsèquement, t'as rien du tout. T'as l'impression de voir du vide, t'as l'impression que les gens sont pas connectés. Après, j'allais dire en A aussi, t'as l'impression qu'ils sont pas connectés. T'as l'impression que les gens quand ils vont en sélection, ils travaillent pas. Simplement. Et c'est assez frustrant. Il y a pas de dynamique. Il y a une circulation en U constante. J'arrête de regarder, enfin, j'ai considérablement diminué la consommation de ces matchs-là parce que tu sais à quoi tu vas t'attendre. Et si tu marques pas dans les 5 minutes, tu sais que tu vas t'attendre à un match vraiment compliqué, quoi. Vraiment compliqué.
À regarder, à comparer. Moi, je regarde à chaque fois et je compare les sorties de balles de nos adversaires.
Ah, mais c'est
incroyable. Tu as vu à côté la Norvège, le Danemark, la Suède, même parfois le Kazakhstan. Je te jure que parfois il y a des
meilleurs
principes sortis à 3 avec avec voilà des jeux entre les lignes, des joueurs qui prennent des risques balle au pied. Ou pour Suède, oui, on fait notre donc ça fait 20 ans que ça dure, c'est notre numéro 6 qui descend pour former une ligne de 3, mais qui ne sert strictement à rien.
C'est un poème, on pourrait l'écrire en poème.
Je te jure, parce que déjà ton numéro 6, généralement c'est le mec le moins technique au monde que tu mets là, donc lui c'est la première relance, il sait même pas pourquoi, et donc ça n'arrive pas à sortir le ballon proprement, donc parce que les adversaires pressent bien, et nous on sait strictement pas où sortir correctement un ballon, on est nul dans les premières phases de construction, donc bim, long ballon sur l'ailier qui est, bon je sais pas moi, Olivier Thomé, Gonzalo Moreira, Thomas Péchot, enfin voilà, que des trucs comme ça, et tu là, et c'est pendant 90 minutes comme ça, où tu n'arrives pas à faire une sortie de balle correcte, ou peut-être une ou deux, et tu te dis, bon voilà, il y a de la qualité, ils ont de quoi faire, mais ils le travaillent tellement jamais en entraînement que, qu'ils arrivent en match, ils n'arrivent pas à le faire. Et je pense même qu'aussi, il y a un petit problème au sein du club, Mathieu, tu vas, je pense, me rejoindre, c'est que le seul club qui joue autrement que le 4-3-3, bah c'est Braga. C'est Braga qui joue quasiment tout le temps dans un schéma de 3-4-3 avec ballon. Ou même, tu vois, par exemple, on parlait des U13 tout à l'heure, de la génération 2010, ça joue pareil en 3-4-3. C'est le seul club, j'ai l'impression, qui essaye de mettre en place de nouvelles idéologies, de nouveaux modèles de jeu. Et que ce soit Sporting, Braga ou Benfica, ont tendance encore à trop utiliser ce 4-3-3 au niveau d'information. Et c'est dommage.
Je suis d'accord avec toi. Mais après, en club, même si c'est toujours le même système, c'est vrai que tu sens que cette année c'était moins bien, mais globalement dans ces équipes là tu sens quelque chose, tu sens qu'il y a du travail, tu sens qu'il y a dynamique, tu sens quelque chose. Même les succès de ces 6-7 dernières années, les Euro 17 des 99, l'Euro 19, certaines grandes performances et tout, c'est que les clubs, hein, c'est que les individualités qui gagnent, les individualités, c'est les clubs qui les forment, hein. Après, si t'arrives
au niveau des clubs, je suis pas inquiet. C'est vraiment.
Je suis totalement d'accord avec toi parce que voilà, c'est donc si t'as une génération de fous comme les 99, bah tu gagnes tout, mais parce que déjà les garçons s'entendent bien et parfois certains sont quand même au club parce que t'avais des Jetson, Florentino, Jota, Zego, ils jouent tous à Benfica, mais Porto aussi, t'avais une base quand même assez solide, t'avais des dynamiques qui rendaient cette génération spéciale. Je suis d'accord, on a un peu divergé d'ailleurs sur le thème, c'est pas grave. mais je suis d'accord, et mais après et que en sélection après faut que t'as pas tout le temps une génération 99 et que après t'as besoin de travailler quand t'as besoin de créer quelque chose entre ces joueurs-là, t'as besoin de créer des connexions tout simplement. Et c'est vrai que le 6 qui va entre les centrales qui écartent, les latéraux qui montent, les milieux de terrain qui descendent pas assez parce qu'ils attirent personne, ils n'arrivent pas à faire le lien avec l'attaquant, ils n'arrivent pas à faire avec la profondeur, donc bim, ballon en haut pour des ailiers qui parfois sont pas des ailiers de percussion pour provoquer dans la profondeur, mais tu te fais chier, t'arrêtes de regarder les matchs, quoi. Donc je suis assez d'accord avec ça. Et oui, contre ça, nous, je suis assez d'accord avec toi parce que là, les 6 ont joué en 4-3-3. U19 aussi, l'équipe U17 aussi d'ailleurs cette année. L'équipe B joue en 3-4-3, l'équipe U23 joue en 4-3-3 aussi. Bon, celle-là, elle joue quand même beaucoup en 4-3. Mais les années précédentes, je suis d'accord avec toi, on a beaucoup plus utilisé le 3-4-3 avec Couchetot notamment. Le 4-4 de l'année dernière avec Pedro Pires avec les 2005, le 3-4-3 encore l'année dernière avec les 19, donc ça fait pas tout, mais oui, tu t'adaptes quand même un peu plus à ta génération, et Pedro Pires par exemple a joué en 3-4-3, en 4-4 de l'année dernière, et cette année a joué en 4-3-3, parce que les générations sont différentes, et sont drastiquement différentes, donc c'est ahurissant, et ça démontre voilà qu'il n'y a pas assez de travail au sein de la fédération en termes de direction sportive, en termes de direction technique, plus d'influence de la fédération sur le comment jouer et comment former ses joueurs. Et non, en fait, on prend tout ce qui se fait au niveau des clubs et après on verra en termes d'individualité. Donc ouais, je partage la frustration de mes camarades ce soir.
Et juste pour finir, et j'en suis persuadé, par exemple, il y a l'Euro U19 qui commence dans quelques jours, que notre numéro 6, parce qu'on va jouer en 4-3-3, ne vous inquiétez pas, ça c'est clair et net, notre numéro 6, ça sera, on a le choix entre Nuno Félix et Yanis Darrocha. Nuno Félix, qui est un joueur qui est vraiment plus dans la destruction du jeu, qui est un récupérateur, mais qui balle au pied, ne propose rien et qui est vraiment très très quelconque. Et Yanis Darrocha, qui est tout l'inverse, c'est que bon, défensivement, il a peut-être quelques lacunes encore pour l'occupation des espaces, pour courir, défendre sur des grands espaces, mais balle au pied, c'est un véritable, je dis pas un génie, mais un véritable talent, vraiment, c'est vraiment un régal à voir jouer, très fort sous pression, etc. Et bah, vous verrez que le numéro 6, ce sera Nuno Félix. Voilà, c'est lui qui va former cette ligne de 3 à la relance, alors qu'il ne sait strictement pas relancer. Mais ça, j'en suis persuadé que le premier match, ce sera Nuno Félix titulaire, et ce sera lui le titulaire de cette sélection. Alors qu'en temps normal, il ne doit même pas être sélectionné. Mais voilà, c'est le numéro 6 de Benfica, et il faut qu'il joue, parce que sans ballon, il est bon. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas. Mais évidemment, quand je pense qu'il connaît, j'ai pas encore l'orgueil ou plutôt de dire que je connais mieux le football que Philippe Ramos, loin de là. Je pense qu'il connaît mieux le football que moi, mais au bout d'un moment, quand tu vois que ça marche pas, que mettre des numéros 6 qui ne savent pas construire, tu vois que ça paye pas, bah, au bout d'un moment, faut pas insister dessus. Mais le problème, c'est qu'ils insistent dessus et qu'à la fin, bah, on repart déçu.
On est d'accord, Alex. Les garçons, on a un peu dévié, mais non, c'était le débat d'Alex, donc on a fait un débat sur son dernier sujet. On est bien, on n'a pas trop, on est pas mal. Est-ce que pour terminer, est-ce que vous aviez des sujets qu'on n'a pas évoqués et vous voulez juste dire les sujets qu'on n'a pas évoqués en une phrase où on a tout évoqué?
Non, c'est juste ouais, je rejoins Philippe, il a dit quelque chose d'important tout à l'heure, c'est le manque d'ailier de formation d'ailier, et je le rejoins un peu. Mais ne t'inquiète pas, attends encore un peu et ça va arriver.
Voilà. Il faut envoyer des noms là, monsieur.
Allez, je crois que Philippe, il s'inquiète pas.
Non, mais il y a Thomas Péchaud qui est très bon, Tavares Lacardozo, mais c'est la génération 2008 déjà qui est vraiment de très très bons ailiers qui vont arriver. T'as les Stéphane Domingo, mais voilà, ça va attendre encore un peu.
Oui, mais c'est
vrai qu'il y a un gros creux générationnel.
Comment? C'est pas demain la veille.
C'est pas de mal à dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut remonter en U15, du moins pour voir des joueurs un peu frissons. Et c'est vrai que je te rejoins totalement. C'est vrai que tu vas dans U19, U17, U16, etc. T'as pas vraiment de joueurs frissons, à part peut-être Giovanni Kenda qui était
ah, le sportif qui était en U17. On va pas en parler. C'est la convocation à U17, on va pas en parler.
On est d'accord là-dessus, mais voilà, t'as peut-être c'était le seul, mais vraiment, c'est vrai qu'il faut remonter un peu au U15 pour voir au moins 3-4 joueurs frissons en termes d'ailier. Et je te rejoins totalement qu'il y a eu vraiment un gros creux générationnel là-dessus sur la formation des ligues portugaises.
Ouais, mais est-ce que c'est pas justement parce qu'à cet âge-là, ils ont encore un peu de liberté créative et ils sont pas encore formatés?
Ça, c'est un débat qu'on peut avoir tellement. Je pense qu'il faudra un podcast là-dessus sur le fait que les joueurs deviennent de plus en plus des ordinateurs en quelque sorte et il y a de moins en moins de place
pour être créatif.
C'est partout pareil, je suis d'accord.
Ah, ouais. Mais justement, arriver un peu plus haut, c'est le résultat qui va primer pour la plupart, et du coup, ça va les formater et peut-être qu'ils vont leur demander moins de prise de risque. Et à ce moment-là, le joueur sera un peu plus naturé. Alors, espérons que l'exemple Léao soit celui qui déconstruise un peu ses idéologies. Mais pour un club, pour un pays autant pourvoyeur de d'ailier frisson, et après c'était un autre football aussi, donc voilà, je sais pas, que je m'inquiète, mais c'est dommage
t'inquiète pas parce que ça va arriver, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un creux générationnel. Alors j'ai même pas envie d'évoquer les Yannick Philippe ou les José Garfa, parce qu'on va me dire qu'encore que ils sont trop jeunes, etc. Mais c'est les seuls, vraiment, moi c'est les seuls que bah limite bah tu regardes jouer, parce que c'est les seuls qui procurent du plaisir, ouais, vraiment. Où,
c'est des enfants.
Quoi. Un peu sur le football de la rue où bah, ils s'en battent. Alors oui, je sais très bien qu'en dans le monde pro, ça va tiquer parce qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent sur le terrain. Et mais c'est le football de la rue, c'est ce qu'on aime. Enfin, c'est ce qu'on a aimé le football pour ça. Mmh. Les jeux gabonais, tout la cage. Je sais pas si t'as connu Mathieu, mais je pense, mais moi et Philippe on a connu la cage où vraiment c'était vraiment fallait humilier son adversaire.
En mode vous avez 60 ans les gars, wesh. Ils jouent, c'est
incroyable. Genre vraiment les faut remonter vraiment à Yannick Philippe et José Garrafa pour voir des joueurs qui humilient leur adversaire sur un terrain de foot.
Comment 12 ans.
C'est ça, c'est les seuls vraiment que oui. Il y a plus de joueurs comme ça et c'est les seuls avec Stéphane quand même qui est en 2009, mais vraiment t'en as, c'est vrai qu'il y a un manque de vraiment de ce que je disais tout à l'heure de joueurs frissons qui te font lever les foules et je trouve que le football perd en qualité sur ce domaine là.
Et ben ce sera le quasi mot de la fin. Je sais pas si Philippe t'avais un sujet qu'on n'a pas évoqué.
Non, tout a été évoqué,
tout a été dit,
que ce soit par mes soins ou par les vôtres. Donc non.
Ok. Moi j'avais un dernier sujet rapide. Hein. C'était juste pour dire qu'on parle beaucoup des clubs du Nord. Sauf que les clubs du Nord, c'est soit Chaves, donc Talogemont, soit c'est que des clubs du district de Braga. Tous. Hein. Ils sont tous du district de Braga. Et en fait, on vient tous. Enfin, je dis on vient tous. Hein, mais la moitié du groupe vient du district de Viana. Et ben on aura quand même un club en Détroit l'année prochaine dans le district de Viana. C'est donc c'est pas le CD, c'est le Vianiens, je me souviens plus des initiales. C'est le Vianiens qui est monté de D4 en Détroit, qui sera donc en Liga 3 l'année prochaine. Donc on aura un club du district de Viana do Castelo dans les championnats bon, semi-professionnels, parce qu'ils viennent tous de Braga finalement. Et donc un big up à tous les gens qui viennent de cette région-là. Ils se reconnaîtront.
Très belle région.
Très rapide quand même. Pont de Barque moins, on est d'accord, mais Arcos, vous connaissez. Pont de Lim aussi, vous connaissez. Pont de Barque, bof. Hein. Coucou Louis. Ça fera un test pour savoir s'il a écouté le podcast ou pas.
Exactement.
Pour voir si les gens de Golasso écoutent le podcast ou pas.
Faire des mentions spéciales, on insulte quelqu'un pour voir s'il écoute et s'il ne fait pas de retour, c'est qu'il n'a pas écouté.
Du coup, big up à Kevin du compte Adept parce qu'il a fait beaucoup la promotion de la saison de Viennes cette année. Donc, il doit être complètement ravi, donc big up à lui.
Bah, du coup, on va voir s'il écoute aussi. Du coup.
C'est vrai. Et donc, big up à José Mourinho, on va voir s'il écoute aussi.
Big up à mon daron qui va certainement écouter ce podcast ici.
Voilà, faisons un big up.
Big up à Jean-Félix qui est en train de faire du basket plutôt que chercher un club. Ça, c'est, il faut le souligner. Ça,
ouais, il a un agent pour ça. Hein.
Bah, il est occupé. Il a le temps maintenant. Les garçons, merci beaucoup. Merci pour cette heure et quart en ma compagnie pour parler de tous ces sujets-là. Ça nous faisait plaisir. Et bon, on a fait un peu plus sur la fédération, mais ça en valait la peine. Donc, merci à tous les éditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à cette heure-ci. On se retrouve donc en podcast à peu près tout l'été, en podcast encore l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. En live, à partir de la semaine prochaine, saison qui s'annonce fabuleuse, on l'espère. Et donc on se retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Ce podcast désormais n'est que disponible que sur les différentes plateformes de podcast, donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires et des notes sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, toutes vos applications où vous pouvez mettre des notes. Si ça peut être des bonnes notes, tant mieux pour le référencement. Et nous, on se retrouve à une prochaine. Merci les garçons. Ciao, ciao.